Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur IDFM Radio. Vous écoutez À toi les étoiles, votre rendez-vous mensuel pour explorer les mystères de l'univers tous les 3e dimanche de chaque mois de 13h à 14h. Je suis Franck et aujourd'hui nous en sommes déjà à la 222e édition d'À toi les étoiles, émission qui célébrera son 20e anniversaire le mois prochain en décembre. Je vous en reparlerai en fin d'émission. Je vous rappelle que notre émission a le plaisir d'être soutenue par une marraine et un parrain de renom, Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Leur passion pour l'astronomie et l'astronautique nous accompagne à chaque diffusion. Pour cette édition, nous vous proposons une sélection de podcasts fascinants produits par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, intitulé « Raconte-moi l'espace ». C'est LE podcast du CNES pour toute la famille. Un enfant pose une question et un de leurs experts lui répond. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le ciel est bleu, comment les astronautes vivent en apesanteur, ou ce que ressentent les enfants lorsqu'ils contemplent les étoiles. Ces podcasts répondent aux grandes questions des petits et des grands curieux d'exploration spatiale. Aujourd'hui, sur IDFM Radio, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace avec Raconte-moi l'espace, les étoiles à portée d'enfant. Pour débuter cette émission, nous allons écouter un premier podcast qui pose une question essentielle. Est-ce qu'on peut protéger la Terre depuis l'espace ? Aurélien Sacotte, responsable du changement global au CNES, nous apporte sa réponse.
Pourquoi ? C'est quoi ? Raconte-moi l'espace. Comment ça marche ?
Raconte-moi l'espace.
Raconte-moi l'espace.
Est-ce qu'on peut protéger la Terre en l'observant depuis l'espace ?
Bonjour Ulysse. D'abord, merci pour ta question, je la trouve vraiment très intéressante, mais surtout très importante. Je m'appelle Aurélien Sacotte, je travaille au Centre National d'Études Spatiales, le CNES, où je suis spécialiste du changement global. Je m'occupe de projets sur le changement climatique et aussi de groupes scientifiques avec nos amis de l'Agence Spatiale Américaine, qu'on appelle aussi la NASA, et l'Agence Spatiale Européenne, qu'on appelle aussi l'ESA. Protéger la Terre, oui, mais de quoi exactement ? Il faut savoir que depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a des milliards d'années, le climat change sur de très longues périodes de temps. Ces changements de température se passent sur des milliers, voire des millions d'années, et changent à chaque fois les caractéristiques environnementales de la Terre. Là où il y a eu de l'eau à un moment donné, on peut trouver un désert. Ou bien, là où il y a eu de la terre, on peut trouver un lac ou une mer. Depuis le 19e siècle, nous savons que les températures de la Terre augmentent rapidement. Nous pensons, grâce aux travaux scientifiques, que l'augmentation très rapide du nombre de personnes sur Terre a un effet sur la météo, ou le climat, ou le temps qu'il fait et les températures extérieures sur Terre. Cet effet, qu'on peut appeler notre impact sur le climat, est une menace pour la nature et la vie sur notre planète. C'est par exemple la pollution, la déforestation, l'utilisation des ressources naturelles, ou encore notre consommation énergétique sur Terre. Sur les 100 dernières années, la température moyenne a augmenté de plus d'un degré, beaucoup plus rapidement que les changements naturels sur de très longues périodes de temps. C'est ce qu'on appelle le changement climatique. Comment observer le changement climatique ? Il y a plusieurs moyens d'observer le climat. J'aimerais commencer par te parler de météorologie. Une partie de ce que tu peux voir sur un écran en regardant la météo nous vient des satellites. Un satellite, c'est un objet de la taille d'un micro-ondes pour les plus petits ou d'une voiture pour les plus gros qu'on envoie dans l'espace avec des appareils qui mesurent ou prennent des photos de notre planète et les renvoient au sol. Grâce à ça, on peut avoir des images de toute notre planète. Ça nous permet de voir en détail l'évolution d'un endroit protégé ou d'apporter de l'aide en donnant des informations en cas de désastre causé par les hommes ou par la nature, pour que nous puissions régler certains problèmes ou mieux comprendre des phénomènes naturels. Si tu regardes le ciel la nuit et que tu vois un point lumineux qui ne clignote pas, qui est isolé et qui bouge lentement, c'est sans doute un satellite. Est-ce qu'on peut protéger la Terre en l'observant depuis l'espace ? on peut se dire que finalement la Terre sera toujours là, elle ne bougera pas, donc pas besoin de la protéger. Mais en réalité, ce qui peut être endommagé et mettre très longtemps à guérir, c'est la vie qui est apparue et a évolué sur notre planète. Comme je te l'ai expliqué, l'activité humaine génère de la pollution, due par exemple à l'élevage intensif, aux usines, aux transports et au commerce. Notre activité, comme la déforestation et l'agriculture intensive, impacte aussi les plantes et les animaux. Elle réduit donc la biodiversité, c'est-à-dire toutes les différentes espèces vivant sur Terre. Les satellites peuvent donc nous aider à observer et à partager des informations sur ces problèmes, ce qui nous aide à comprendre et à agir, et donc nous aide à protéger notre planète, à protéger notre maison. Donc en fait, un satellite, c'est un peu comme un ange gardien.
C'était Aurélien Sacotte, spécialiste du changement global, dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.
Vous êtes bien sur IDFM Radio et vous écoutez À toi les étoiles. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est une sélection de podcasts du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, intitulé « Raconte-moi l'espace, les étoiles à portée d'enfant ». Un enfant pose une question, un expert du CNES y répond. Après avoir découvert comment l'espace peut aider à protéger notre planète, nous allons maintenant explorer un aspect fascinant de la vie des astronautes. La prochaine question est « Comment dort-on dans une fusée ?» C'est une interrogation que beaucoup se posent, tant il est difficile d'imaginer comment on peut dormir en apesanteur dans un espace restreint. Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'écouter Isabelle Savin, responsable d'expérience des vols habités au CNES, qui va nous expliquer comment les astronautes parviennent à se reposer dans ces conditions si particulières.
Pourquoi c'est quoi ? Raconte-moi l'espace. Comment ça marche ? Raconte-moi l'espace.
Raconte-moi l'espace.
Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je voudrais savoir comment on dort dans une fusée.
Bonjour Jeanne, je te remercie pour cette très intéressante question. Donc moi je m'appelle Isabelle Savin de l'Arclose, je travaille au CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, et je suis responsable d'expérience à bord de la Station Internationale, qu'on appelle aussi l'ISS pour International Space Station. Donc ta question, comment dort-on à bord d'une fusée ? On peut peut-être l'élargir à comment dort-on dans l'espace. Donc quand un astronaute va dans l'espace, effectivement il monte à bord d'une fusée, et généralement il monte à bord de cette fusée pour rejoindre cette Station Internationale. Il va mettre en moyenne 6 heures. Donc 6 heures, il n'a pas vraiment le temps de dormir. Des fois, ça met un peu plus longtemps. Par exemple, la dernière fois que Thomas Pesquet est monté à bord de la Station Internationale, il a mis une journée entière. Et donc s'ils doivent dormir à bord de leur fusée, ils dorment dans leur fauteuil, un peu comme tu dormirais dans ta voiture. La Station Internationale, elle tourne très très vite autour de la Terre. Elle tourne tellement vite qu'elle fait le tour de la Terre en 90 minutes. Et donc ça veut dire que pendant 45 minutes, il va faire jour, et pendant 45 minutes, il va faire nuit. Donc on se rend bien compte que c'est un peu compliqué. Sur Terre, il fait grosso modo jour 12 heures et nuit 12 heures. Donc pour dormir, c'est pratique, on dort quand il fait nuit. Et donc là, pour que les astronautes ils puissent quand même avoir un rythme normal, en fait, il a été décidé que la station spatiale, elle serait à l'heure d'un méridien, qu'on appelle le méridien de Greenwich, et qui correspond à l'heure de Londres. Et donc à bord de la station, tout le monde vit à l'heure de Londres. Et à partir de ça, ils reconstruisent une journée normale. Donc ils vont se lever vers 6h30, donc à 6h30, la lumière est allumée à bord de la station et elle va rester allumée jusqu'à 23h. Et donc à 23h, quand ils veulent aller se coucher, comment ça se passe ? Chaque astronaute a une petite chambre, très petite, qui est de l'ordre d'une grande cabine de douche, on va dire. Et dans cette cabine de douche, ils ont plusieurs choses. Ils ont d'abord un sac de couchage. Et en fait, comme tu l'as probablement déjà vu à la télé ou sur Internet, sur la station spatiale, ils sont en apesanteur. C'est exactement comme s'ils flottaient. Et donc, on ne peut pas se coucher à proprement parler. Donc, ils vont juste se mettre dans ce petit sac de couchage. Ce sac de couchage, il est accroché au mur. Mais pour certains astronautes, il va être accroché au plafond ou par terre. Mais ça ne change rien dans la mesure où c'est comme s'ils flottaient. Et donc, pour se coucher, l'astronaute, il rentre dans son sac de couchage. Il y a un trou pour chaque bras. Il ferme la fermeture éclair et hop, il peut dormir. Ce que disent les astronautes, c'est qu'il faut effectivement un peu s'habituer pour pouvoir dormir, mais qu'ensuite, ils dorment très bien. Et notamment parce qu'en fait, ils ne ressentent pas leur propre poids. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'appui. Nous, souvent, dans notre lit, en fait, on bouge. Et notamment, on bouge pour changer les surfaces de notre corps qui sont en appui avec le matelas. Donc, dans cette petite chambre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a un système pour que l'ambiance sonore, donc le bruit dans leur chambre, soit plus faible. Parce que le bruit à bord de la station, il est très élevé. Il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup d'ordinateurs. C'est un système qui est vraiment très compliqué, et donc tout ça, ça fait beaucoup de bruit. Et ça, les premiers astronautes, ça leur dégradait leur audition, ça leur faisait mal aux oreilles. Pour que tu puisses te rendre compte, Jeanne, de ce que les astronautes entendent, on va te faire écouter le bruit à bord de la station internationale. Donc, comme tu viens de l'entendre, le niveau de bruit est assez élevé. Et donc ça, ça pourrait dégrader les oreilles des astronautes et puis surtout, ça les empêcherait de bien dormir. Donc dans leur chambre, ils ont un système qui permet de diminuer le volume du son ou en tout cas de faire un son qui est plus agréable pour dormir. On appelle ça un bruit blanc et on va te le faire entendre. Par ailleurs, il y a un autre système, c'est des espèces de petits ventilateurs pour remuer l'air. Parce que, comme on l'a dit, ils sont en apesanteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation d'air. Et donc, quand l'astronaute il va respirer, le gaz qu'il va expulser, donc quand il l'expulse, ce gaz il va rester autour de lui. Parce qu'il n'y a pas de mouvement, l'air il n'est pas brassé comme sur Terre. Et donc, il y a des petits ventilateurs pour que l'air circule autour de sa tête et qu'il dénote constamment de l'oxygène qui lui revienne et donc qu'il dorme bien. Donc l'astronaute, il va dormir comme ça jusqu'à 6h30, 7h du matin. Là, il se lève, il va prendre son petit déjeuner, exactement comme toi sur Terre, et puis il va commencer sa journée. Donc quand on commence sa journée, on est à peu près tous pareils, y compris les astronautes, on va souvent faire pipi. Et donc on peut se demander, l'astronaute, comment il fait pipi dans l'espace? Et notamment, on a dit qu'encore une fois, on était en apesanteur, peut-être que là aussi tu l'as vu à la télé, les gouttes, elles flottent. Donc dans ces conditions, ça peut être un peu compliqué de faire pipi. Et pour ça, les scientifiques ont inventé un petit système. C'est un espèce d'entonnoir avec un tuyau et quelque chose qui aspire tout ça très fort. Donc là, vous pourrez entendre le bruit que va faire cette espèce de grande chasse d'eau avec un ventilateur. Et donc l'astronaute, il fait pipi dans son petit entonnoir. Et cette eau, elle est récupérée par un système qui va la nettoyer, la purifier. Et après, elle repasse dans le circuit normal de l'eau. Et c'est-à-dire que les astronautes, en fait, quelque part, ils vont boire leur pipi. Leur pipi, il a été filtré, il a été nettoyé, mais c'est quand même leur pipi qu'ils boivent à la fin. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les astronautes, ils vivent sur un rythme qui est sensiblement le même qu'un humain sur Terre qui travaille. C'est juste que leurs activités quotidiennes sont un peu différentes et parfois un peu plus compliquées, mais aussi un peu plus amusantes parce que tout ça, ils le font en flottant dans l'air. Et si tu m'as posé cette question, j'imagine que c'est parce que tu t'intéresses de près à l'espace. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les astronautes d'aujourd'hui, c'est des enfants qui, comme toi, un jour ont rêvé à l'espace. Donc, il faut bien se dire que tu as le droit d'y rêver. Tu peux devenir astronaute si tu es passionné. Et donc, rendez-vous dans 15 ans pour un prochain recrutement.
C'était Isabelle Savin, responsable d'expérience des vols habités au CNES. Dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.
Isabelle Savin nous a dévoilé des aspects passionnants de la vie des astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale, mais aussi les bruits. Merci à elle. Difficile d'imaginer dormir en apesanteur, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas fini. Restez bien avec nous sur IDFM Radio, car après une pause musicale avec Calogero et son titre « Paris qu'on s'aime encore », nous reviendrons avec encore plus de questions surprenantes et des réponses captivantes issues des podcasts « Raconte-moi l'espace ». Vous allez découvrir des anecdotes passionnantes et des secrets de l'exploration spatiale que vous n'entendrez nulle part. Alors ne bougez pas, on revient tout de suite pour continuer notre voyage parmi les étoiles.
IDFM, 98 FM.
Et nous voilà de retour sur IDFM Radio. Vous écoutez toujours l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois, de 13h à 14h. Et aujourd'hui, nous explorons ensemble une série de podcasts du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, intitulé « Raconte-moi l'espace ». Le concept est simple et fascinant. Un enfant pose une question sur l'espace et un expert y répond avec passion. La prochaine question est particulièrement intéressante et devrait plaire à nos jeunes auditeurs. Est-ce que des enfants ont déjà été dans l'espace ? Pour nous apporter une réponse, nous avons le plaisir d'écouter Guillemette Gauquelin-Corps, responsable des sciences de la vie et médecine spatiale au CNES.
Pourquoi ? C'est quoi ? Raconte-moi l'espace.
Raconte-moi l'espace.
Comment ça marche ?
Raconte-moi
comment ça marche.
Raconte-moi l'espace.
Bonjour, je m'appelle Moïse et j'aimerais savoir si on a déjà laissé aller des enfants dans l'espace.
C'est une excellente question, Moïse. D'autant plus pertinente après ces 2 années de confinement qui donnent à chacun une envie d'évasion. Comme tu l'as appris à l'école, l'homme a toujours exploré son environnement pour améliorer sa vie quotidienne. Au cours des siècles, nos progrès techniques nous ont permis de survivre dans des milieux très divers et hostiles. Jadis, les grands explorateurs, navigateurs, ont parcouru des distances immenses sur les mers et sur les océans. Tout humain a le désir d'explorer l'inconnu. Il est donc bien naturel de vouloir découvrir l'espace. Nous devons peut-être définir le mot « espace ». On considère généralement qu'il commence à 100 km au-dessus de la surface terrestre, qu'il s'étend sur des milliards d'années-lumière et présente donc de très nombreux types d'environnements. Pour explorer l'espace, l'homme a dû quitter son cocon terrestre et s'adapter à un milieu totalement nouveau et beaucoup plus hostile que celui de notre planète Terre. Mais pour survivre dans ce nouvel environnement, l'astronaute doit suivre pendant de très nombreuses années un entraînement intensif. Être astronaute est un métier à part entière. Pour répondre à ta question, peut-on envoyer un enfant dans l'espace ? Dans l'absolu, il serait certainement possible qu'un enfant participe à des vols spatiaux de courte durée, avec un minimum de préparation. Mais actuellement, il existe encore quelques barrières à franchir. Dans la vie de tous les jours, l'être humain doit pouvoir décider librement de ce qu'il veut faire. C'est ce que l'on appelle le consentement libre et éclairé. Or, on considère qu'un enfant n'a pas assez de connaissances pour décider lui-même. Si un enfant doit se faire opérer, ses parents doivent donner leur accord. L'enfant ne peut pas décider seul. C'est le premier problème qui se pose pour l'accès d'un enfant à l'espace. Pour effectuer des vols spatiaux, il faut avant tout avoir une tête bien faite. Les connaissances scientifiques du candidat astronaute constituent le principal critère du recrutement des agences spatiales. Or, cette tête bien faite, nous l'acquérons au fil du temps, grâce aux études que nous faisons, notamment scientifiques. Sur Terre, l'astronaute passe beaucoup de temps à s'entraîner et à répéter les expériences qu'il fera dans l'espace. Pour te donner un exemple, lors de son dernier vol, Thomas Pesquet a fait plus de 100 expériences. L'obstacle le plus important actuellement pour envoyer un enfant dans l'espace est certainement les modifications du corps. Vous, les enfants, vous êtes en pleine croissance. Nous ne pouvons pas modifier votre corps. Les vols dans l'espace contraignent terriblement l'organisme. L'astronaute a un organisme qui vieillit prématurément, beaucoup plus vite que sur Terre. Dans la station, son cœur travaille moins, ses os, ses muscles n'ont plus la même fonction. Il s'atrophie. C'est pourquoi nous disons qu'au retour sur Terre, l'astronaute a des pattes de poulet. Et sur le plan psychologique, tu dois présenter une importante force de caractère pour faire face aux périodes de stress auxquelles tu seras soumis. Actuellement, nous savons qu'un homme ou une femme marchera sur la Lune très prochainement. Dans 20 années, des astronautes iront sur Mars. Vous êtes la génération qui verra le premier humain sur la planète rouge. Tu dois te préparer pour être celui-ci. Des défis très importants t'attendent. Mars est situé à 100 000 000 km de notre Terre. Le voyage durera 6 à 9 mois, dans un espace confiné, particulièrement stressant. Et bien sûr, l'objectif de ces recherches est d'installer une base sur la Lune ou sur Mars, où les personnes pourront vivre. Tu dois donc acquérir de très bonnes connaissances scientifiques. parler plusieurs langues, l'équipage venant de pays différents, avoir une très bonne condition physique. Donc, fais beaucoup de sport, c'est maintenant qu'il faut te préparer. Nous comptons sur toi.
C'était Guillemette Gauquelin-Corps, responsable des sciences de la vie et de la médecine spatiale au CNES, dans Raconte-moi l'espace. La série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.
Vous êtes sur IDFM Radio et vous écoutez À toi les étoiles et vous venez d'entendre un podcast extrait de la série de podcasts du CNES intitulé Raconte-moi l'espace. Et c'était Guillemette Gauquelin-Corps qui vient de répondre. On sait désormais que s'il n'est pas impossible d'envoyer des enfants dans l'espace, c'est quand même très compliqué. Mais l'espace, ce n'est pas seulement les voyages habités. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous envoyons autant de satellites là-haut. À quoi servent-ils et pourquoi en lancer autant? Notre prochaine question aborde justement ce sujet. Pourquoi envoie-t-on plein de satellites dans l'espace? Pour y répondre, nous allons écouter Éric Brel, expert en applications spatiales pour les marins et les gardes-côtes au CNES, qui va nous éclairer sur le rôle essentiel de ces satellites dans notre quotidien et au-delà.
Pourquoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace.
Raconte-moi l'espace.
Comment ça marche?
Raconte-moi
comment ça marche. Raconte-moi l'espace.
Envoie plein de satellites dans l'espace?
La réponse à ta question, Ulysse, est très vaste. Je suis Éric Brel, je m'occupe des applications du spatial pour les marins, tous ceux qui s'occupent des bords de mer et aussi ceux qui s'occupent des villes. Alors, c'est quoi un satellite? À quoi ça sert? Un satellite est une toute petite boîte pleine d'instruments qu'on envoie dans l'espace et qui tourne régulièrement autour de la Terre. Tous les jours, tout le temps, et il passera sans arrêt au-dessus des mêmes points pour donner des informations. Un satellite mesure toute la surface de la planète en 5 à 20 jours. Alors que, par exemple, pour un navire, plein de matelots à bord, il faudra à peu près un mois pour faire la mesure tout au long d'une ligne qui irait entre Le Havre et New York. Les satellites d'observation de la Terre qui ont la possibilité de couvrir toute celle-ci, de mesurer et recueillir des informations sur toute la surface de la Terre, ont montré leur efficacité. Ces satellites d'observation de la Terre, qui mesurent les mers, l'océan, les pôles, les forêts, mais aussi l'atmosphère, ont permis de montrer à l'homme la fragilité de notre planète. La Terre est un vaisseau qui peut emporter plusieurs milliards de personnes, mais qui aussi embarque tous les écosystèmes dont on a besoin. Les animaux, les bactéries, les plantes, tout l'environnement nécessaire à la vie et à notre bien-être. Dans les années 70, les premiers systèmes opérationnels permettaient de caractériser et de prédire la météorologie partout sur la planète, pour l'agriculture, pour toi, quand tu dois t'habiller le matin pour aller à l'école. Ensuite, à partir de constats de la fragilité de la planète, les hommes ont mis en place un programme, celui du groupement intergouvernemental pour l'étude du climat, qu'on appelle aussi le GIEC. Celui-ci a démontré que nos activités, à nous les humains, est un peu anarchique, trop rapide, et qu'elle pouvait détruire certains écosystèmes de cette planète, voire à terme influer sur le devenir de l'homme sur la planète. Ce n'est pas la Terre qui va mourir, c'est l'homme qui va disparaître de celle-ci. Il a fallu construire des satellites de recherche et des satellites qui permettent aux politiciens, aux gens qui décident, de mieux connaître l'état de cette planète. En Europe, le système Copernicus fournit des informations régulières, comme tous les compteurs dans une voiture fournissent des informations sur le niveau d'énergie disponible, le carburant, la batterie. Copernicus est ainsi un des principaux systèmes pour les décideurs de la planète. L'idée est de disposer d'informations pour répondre au plus vite et au mieux aux changements du climat et de diminuer les excès qui vont abîmer notre planète. Il faut aussi une plus grande revisite. Il faut repasser plus souvent au-dessus du même point sur la Terre, comme votre maison, votre école. Par exemple, le commandant d'un grand navire qui fait face à la tempête, aux grandes vagues qui se précipitent vers lui, a besoin de connaître au plus tôt, au plus vite, la hauteur, la vitesse, les forces de ces vagues. Pour cela, il faut remesurer plus souvent la taille de ces vagues. Il faut donc faire plus de revisites et disposer de plus de satellites. Ainsi, de nouveaux systèmes spatiaux vont apparaître pour mesurer les courants marins, le vent, les vagues, le niveau des rivières, les surfaces construites à terre, la pousse des différents types de cultures, du blé, de l'orge, du manioc, l'évolution des maladies en forêt, l'avancement des constructions, et voire même mesurer les villes en 3D. Il faut donc des flottes de satellites. Et ça représente combien de satellites ? Les flottes de satellites en observation de la Terre vont de 20 à 30 satellites. Mais avec le progrès du numérique et des technologies, ces satellites seront de plus en plus petits, moins chers et moins lourds à opérer. Tous les acteurs du spatial sont conscients que cette augmentation du nombre de satellites doit permettre d'éviter de créer des accidents, des collisions entre deux de ces satellites et doit développer une industrie purement spatiale de services en orbite pour récupérer les satellites en panne, changer leur position, aller les réapprovisionner, surtout en énergie. Dans un futur proche, de nouvelles flottes de satellites vont se construire pour permettre aux personnes les plus isolées de communiquer en permanence. Il faut que les satellites se suivent à 10 minutes les uns des autres. Et donc, cela nécessite des flottes de satellites de plusieurs milliers de tout petits satellites. Dans notre métier, tout le monde espère que ces satellites seront développés de manière plus respectueuse de la planète, plus écologique. La loi française y porte une grande attention. Je travaille déjà depuis longtemps dans les métiers du satellite. C'est un bon outil pour savoir où va notre planète. J'espère, personnellement, qu'ils vont permettre à l'homme de mieux prendre conscience et mieux vivre sur sa planète.
C'était Éric Brel, expert en applications spatiales pour les marins et les gardes-côtes, dans Raconte-moi l'espace, la série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.
C'est passionnant d'entendre Éric Brel nous expliquer pourquoi on envoie autant de satellites dans l'espace et comment ils nous aident au quotidien, que ce soit pour la navigation, l'observation de la Terre ou les communications. Nous allons marquer une nouvelle pause et je vous propose maintenant de profiter d'un beau moment musical avec Grand Corps Malade et Kim Burrows sur le titre « Nos plus belles années ». Vous êtes toujours à l'écoute de IDFM Radio et je vous invite à rester avec nous car juste après cette pause, nous continuerons notre voyage spatial avec d'autres questions captivantes et les réponses éclairées des experts du CNES. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec encore plus de découvertes sur « Raconte-moi l'espace ».
Même si c'est tentant.
Venez visiter mon futur.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bienvenue à toutes et à tous et un salut particulier à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien sur IDFM Radio et vous écoutez À toi les étoiles, votre émission mensuelle dédiée aux mystères de l'univers, tous les troisièmes dimanches de chaque mois, 13h-14h. Aujourd'hui, nous explorons ensemble la série de podcasts du Centre National d'Études Spatiales, appelé le CNES, intitulé « Raconte-moi l'espace ». Le concept est simple. Un enfant pose une question et un expert y répond. C'est l'occasion de découvrir l'espace à travers les yeux des plus jeunes et d'apprendre avec eux. Avant la pause musicale, nous parlions de satellites et de leur importance dans l'exploration spatiale. Mais pour lancer des satellites, il faut des fusées. Et justement, une question se pose. Est-ce que les fusées polluent l'espace ? Pour répondre à cette question cruciale et comprendre les impacts environnementaux du lancement de fusées, nous allons écouter Christophe Bonal, expert senior à la direction de la stratégie au Centre National d'Études Spatiales.
Je m'appelle Inaya, je vais avoir 11 ans et c'était pour savoir si les fusées ça polluait dans l'espace ou pas. Je pense que sur Terre ça pollue au décollage, mais après on ne sait pas parce qu'on ne voit pas.
Oui, bonjour Inaya. Moi, je m'appelle Christophe. Je travaille au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, où je fais plein d'activités liées au spatial. Je fais des satellites, je fais des fusées, voilà. Donc, je vais essayer de répondre à ta question. Il y a un point qui est important. Évidemment, au moment du décollage d'une fusée, on voit des gros nuages, on voit d'énormes fumées et autres. Là, on a l'impression que ça pollue. En réalité, dans la très grande majorité des cas, c'est juste un nuage d'eau, comme les nuages qui sont au-dessus de ta tête. C'est-à-dire, on se sert de carburant qui est de l'hydrogène liquide et de l'oxygène, qui sont les deux constituants qui génèrent l'eau. Et donc, finalement, ben, on a des moteurs qui fabriquent des nuages, donc sans aucune pollution. Alors, en réalité, il faut gratter un petit peu plus, parce que ils ne fabriquent pas de pollution, ils ne génèrent pas de pollution quand ils fonctionnent, mais par contre, il faut déjà être capable de générer, de fabriquer l'hydrogène et l'oxygène. Alors, l'oxygène, ça pose pas de problème. L'hydrogène, pour le moment, on sait pas bien le faire, et donc la production d'hydrogène pollue. Alors, heureusement, pour ça, on y travaille beaucoup au CNES, et donc on a, par exemple, on a des usines pilotes en construction en Guyane pour essayer de faire du carburant propre. Ça, c'est quelque chose qui va venir bientôt.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Après le décollage, évidemment, la fusée va suivre une trajectoire qui va monter vers l'orbite. Et au fur et à mesure qu'on monte, on va se séparer de gros morceaux, ce qu'on appelle les étages de la fusée, et qui, eux, vont retomber dans l'Atlantique, dans le cas quand on tire depuis Kourou. Soit ils brûlent à la rentrée, soit donc ils survivent un peu à la rentrée, et puis ils vont descendre au fond de la mer, rouillés. Et d'ailleurs, ça va servir de bonne zone d'amusement pour nos poissons et nos crabes qui adorent nos vieilles épaves comme ça. Après, le truc, c'est donc on se sépare de nos étages au fur et à mesure qu'on monte. Et puis, une fois qu'on arrive en orbite, là, on va aller séparer le satellite sur sa trajectoire. Et généralement, on laisse le dernier étage de la fusée en orbite également, au-dessus de nos têtes, avec le satellite. Ça, c'est pas bien parce que, quelque part, on abandonne donc les vieux étages de fusée et les vieux satellites, une fois qu'ils ont servi, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de bons et loyaux services, on les abandonne là-haut. Exactement comme si on abandonnait une voiture au bord de l'autoroute simplement parce qu'il n'y a plus d'essence. Et ça pose vraiment un problème parce qu'on a un encombrement phénoménal aujourd'hui au niveau de l'espace. Et cet encombrement se traduit par des collisions entre les objets. Ces objets génère des débris, plein de nouveaux débris, et qui eux-mêmes n'ont qu'une envie, c'est d'en rentrer en collision avec d'autres satellites et générer d'autres débris et autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pose un problème sur lequel, heureusement, nous travaillons beaucoup. Le CNES est la première agence mondiale à avoir établi une loi sur le sujet. On a vraiment une loi et donc on est en train de travailler beaucoup au niveau international pour convaincre nos petits camarades des autres agences au niveau international que vraiment, ben, il faut œuvrer en ce sens de manière à essayer d'avoir un spatial propre demain.
Raconte-moi l'espace.
Il faut bien comprendre qu'on n'est pas capable d'avoir des activités humaines sans pollution. Tout ce qu'on fait pollue. Donc la question, c'est pas trop est-ce qu'on pollue. La question, c'est est-ce qu'on pollue en faisant quelque chose qui est utile. C'est-à-dire, est-ce que ma pollution a servi à quelque chose ou pas. Il est clair que si c'est totalement inutile, ben là, il faut absolument tout faire pour l'éviter. Le spatial, c'est quelque chose qui est vital, au sens fondamental pour ta vie. On ne sait pas vivre sans satellite. Par exemple, pour l'environnement, pour comprendre le réchauffement climatique de la Terre, la vitesse des vents, etc., ou pour la météo. On a fondamentalement besoin de satellites pour l'observation de la Terre, pour tout ce qui est agriculture, pour tout ce qui est navigation, satellite de navigation, pour ton GPS pour aller chez mamie, ça vient de l'espace. Et donc, on ne peut pas imaginer d'avoir un monde sans satellites. C'est une pollution qui est tellement associé à quelque chose qui est fondamental pour nos vies, que on fait de notre mieux. Allez, au revoir Inaya, merci pour ta question, et puis à bientôt pour travailler au CNES peut-être.
Merci Christophe Bonal, expert senior à la direction de la stratégie au Centre National d'Études Spatiales.
Merci.
C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.
Ils ont vraiment des questions pertinentes, ces enfants. C'est bluffant de voir à quel point ils s'intéressent aux enjeux de l'exploration spatiale. On continue sur IDFM Radio dans cette émission À toi les étoiles, et ce n'est pas fini, puisque on va écouter encore des podcasts issus de la série Raconte-moi l'espace du CNES. Et la prochaine question est tout aussi surprenante. Est-ce qu'on peut vivre dans l'espace sans le casque? Une interrogation qui nous amène à réfléchir aux conditions extrêmes de l'espace et aux dangers qu'il représente pour le corps humain. Pour nous apporter des éclaircissements, nous allons écouter Grégory Navarro, ingénieur au CNES pour Spaceship France, responsable du développement des habitats et des systèmes de support de vie.
Pourquoi ? C'est quoi ? Raconte-moi l'espace.
Comment ça marche ?
Je m'appelle Rami, j'ai 9 ans. Est-ce qu'on peut vivre dans l'espace sans le casque? Moi, j'aurais dit non, parce que sans le casque, on ne peut pas respirer dans l'espace, parce que c'est un endroit où il n'y a pas d'air.
Bonjour Rami, je m'appelle Grégory et au CNES, l'Agence spatiale française, je suis chargé d'imaginer tous les futurs équipements et objets qui pourront aider l'homme à survivre sur la Lune. Donc déjà, bravo, tu as entièrement raison. On ne peut pas vivre dans l'espace sans équipement. Voilà, l'espace, ben, c'est vide, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air pour respirer. Donc tu l'as vu, Thomas Pesquet, quand il sort dans l'espace, il utilise un scaphandre. Alors ce scaphandre, ça lui permet de respirer, ça conserve l'air à l'intérieur, donc on recrée finalement l'atmosphère de la Terre à l'intérieur du scaphandre. Et c'est la même chose aussi dans la Station Spatiale Internationale. On a cette atmosphère donc, qui permet aux astronautes de respirer. Peut-être que tu le sais, l'être humain s'apprête à retourner sur la Lune et il va falloir le protéger des dangers de l'espace. Donc, on a parlé de l'absence d'air, mais aussi il y a sur la Lune de grands écarts de température. À l'ombre, il fait moins 150 degrés, bien plus froid que dans un congélateur. Et au soleil, il fait plus 150 degrés, comme dans le four quand on fait cuire un gâteau. Au CNES, donc, il existe une organisation qui s'appelle le Spaceship France. Donc, c'est une équipe de plusieurs ingénieurs, scientifiques, avec qui on travaille donc, pour imaginer tous ces moyens, ces équipements qui vont permettre à l'être humain de s'installer sur la Lune. Moi, principalement, dans cette organisation, je travaille sur la partie habitat et système de support vie, c'est-à-dire tous les équipements qui permettent à l'être humain de respirer, boire, manger, donc dans l'espace, sur la Lune et ensuite sur Mars. J'imagine, avec plein de gens, la future maison des astronautes sur la Lune. Donc on dit maison, mais en réalité, ça ne va pas ressembler à une maison comme sur Terre avec une porte, des fenêtres, des tuiles, mais plutôt à une grosse coquille bien solide dans laquelle on va bien conserver notre atmosphère et donc dans laquelle les astronautes pourront respirer. Il faut que ces maisons soient alimentées en oxygène, donc il faut qu'il y ait de l'air à l'intérieur, donc une atmosphère comme on peut en trouver sur la Terre. Mais il va falloir aussi tout un système qui va permettre de recycler cet air. Et en effet, on ne va pas pouvoir aérer comme sur Terre, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres et puis changer l'air intérieur. Donc il faut aussi des systèmes qui permettent de dépolluer l'air, enlever les poussières qui vont pouvoir rentrer. Un autre sujet sur lequel on travaille et qui est très important, c'est la poussière lunaire. C'est une poussière très fine qui recouvre la surface et qu'on appelle le régolithe. Ce régolithe, il ressemble plutôt à de la farine ou du talc, donc c'est vraiment très très fin. Cette poussière fine, elle a aussi tendance à se coller partout et donc on va en retrouver partout sur le scaphandre. Donc quand l'astronaute va rentrer à l'intérieur de l'habitat, il va ramener de la poussière avec lui. Si elle est respirée, à nouveau, on peut mettre en danger la santé de l'astronaute. Donc il va falloir imaginer des équipements pour capturer cette poussière. Alors ça va être par exemple mettre l'astronaute sur une plaque vibrante, donc le faire vibrer suffisamment fort pour que cette poussière elle tombe. Et ensuite on va venir la ramasser avec un aspirateur. On pourra parfaire le nettoyage du scaphandre avec cet aspirateur et donc récupérer toute cette poussière.
Raconte-moi l'espace.
Et enfin, Rami, il y a encore un autre danger qui est peut-être le plus grand, ce sont les radiations. Les radiations, ce sont des rayonnements qui sont émis par les étoiles, comme la lumière. Ces radiations, en fait, elles présentent un danger pour le vivant, et en particulier pour l'être humain. Elles perturbent le bon fonctionnement du corps humain. Et ces perturbations, elles peuvent entraîner des maladies jusqu'à même des cancers. Et donc, il faut mettre en place des équipements qui vont protéger nos astronautes. Pour ça, on va utiliser des nouveaux matériaux. Alors, on va prendre des matériaux existants. On va les mélanger donc pour créer ces nouveaux matériaux. On va créer finalement des millefeuilles avec des matériaux différents. Et ça va nous permettre d'avoir cette radioprotection, c'est-à-dire ce bouclier anti-radiation qui va atténuer, voire bloquer ces rayonnements. C'est un grand défi. On poursuit ces challenges ici au CNES, mais on a toujours besoin de toutes les bonnes idées. Si tu as envie un jour de travailler dans le spatial, mais n'hésite pas à rejoindre le CNES.
Merci Grégory Navarro, ingénieur au CNES pour Spaceship France, responsable du développement des habitats et des supports vie.
Merci.
C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.
Vous êtes sur IDFM Radio et vous écoutez À toi les étoiles. Restez avec nous car après Let's Go de David Guetta, on revient pour une dernière sélection de podcasts passionnants de Raconte-moi l'espace du CNES. Ne bougez pas, on continue juste après cette pause musicale. À tout de suite.
I had the wildest dream last night.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio et vous écoutez À toi les étoiles. Merci de rester avec nous pour cette dernière partie de cette émission. Après cette pause musicale, nous continuons notre voyage spatial avec la série de podcasts du CNES « Raconte-moi l'espace ». Le concept est simple, des enfants posent des questions et des experts y répondent. Nous allons écouter un dernier podcast qui répond à une question fascinante. Est-ce qu'un jour, des personnes qui ne sont pas des astronautes pourront aller sur la Lune ? Pour nous éclairer, Sébastien Bard, sous-directeur exploration et vol habité au CNES, répond à cette question très pertinente.
Pourquoi ? C'est quoi ? Raconte-moi l'espace.
Raconte-moi l'espace.
Comment ça marche ?
Raconte-moi
comment ça marche.
Raconte-moi l'espace.
Je m'appelle Elissa, j'ai 10 ans. Est-ce que des personnes qui ne sont pas astronautes pourront aller sur la Lune plus tard ?
Bonjour Elissa, je m'appelle Sébastien, je travaille au CNES et je m'occupe d'exploration robotique, c'est-à-dire avec des robots, ou des petits ou des gros robots, comme par exemple les rovers qui sont sur Mars actuellement, peut-être entendu parler. Et je m'occupe aussi d'exploration habitée, c'est-à-dire des astronautes. Alors ta question est très intéressante, effectivement, on est intéressé de revenir sur la Lune. Tu as peut-être entendu parler du programme Artemis, où on cherche à faire revenir un homme et une femme sur la Lune avant 2025. Par rapport à ce qui s'est passé il y a 50 ans, on a envie d'y rester sur la Lune. C'est-à-dire qu'on voudrait construire une base, une maison, pour qu'ils y restent au moins quelques semaines par rapport à ce qu'ils avaient fait avant, où ils restaient à peine quelques jours. Et ça va nous prendre du temps, et c'est un métier qui va être quand même réservé à des astronautes professionnels, c'est-à-dire des gens dont c'est vraiment le métier, qui auront été formés pour ça, qui auront été habitués à travailler dans des véhicules spatiaux, qui sont habitués à réagir s'il y a un problème, comme par exemple un trou dans la station, qui ferait qu'ils n'auraient plus d'air, une fuite d'oxygène, un problème très grave pour eux. Je pense pas non plus qu'un jour on aille vivre sur la Lune en famille, parce que la Lune, tu sais, c'est pas très très sympa. On peut pas jouer dehors, on peut pas respirer. Il y a pas d'arbres, il y a rien pour nous en fait. Nous, on est des terriens, on est habitués à ce monde-là qui est très beau, hein, donc qu'il faut préserver. Et la Lune, si on y va, c'est pour travailler ou par curiosité, mais je crois pas qu'on y aille pour s'amuser.
Raconte-moi l'espace.
Donc Elissa, tu as compris, ça va être difficile pour des gens comme toi et moi d'aller sur la Lune, pour des gens qui ne sont pas astronautes. En revanche, il y a d'autres possibilités pour des gens comme toi et moi. C'est l'orbite basse. Alors ce qu'on appelle l'orbite basse, c'est 400 km. C'est la station spatiale. Les images que tu as dû voir d'astronautes comme Thomas Pesquet qui travaille dans l'espace, en fait, ils sont à 400 km. C'est pas loin, hein, 400 km. Demain, l'idée, c'est d'y envoyer des gens qui ne seront pas astronaute, donc ce n'est pas le métier, mais qui rend pour faire de la science. On pourrait imaginer aussi que des ingénieurs qui fabriqueront des choses compliquées, des choses qu'on ne peut pas fabriquer sur Terre, eux, ils pourront aller dans l'espace pour faire eux-mêmes leur expérience. Donc on deviendra astronaute à mi-temps, juste pour faire l'expérience. Ça ne sera pas notre métier principal. Et ça, ça sera possible demain, je crois, parce qu'il y aura de plus en plus de fusées qui iront dans l'espace. Il y aura plusieurs stations, certainement, pas une seule, comme c'est aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle la démocratisation de l'espace, quoi, voilà. Ça donnera accès à des gens qui iront pour travailler et peut-être aussi à des gens qui iront pour faire du tourisme. Ça existe déjà, mais c'est des gens très très riches. Ce qu'on peut espérer, c'est que demain, des gens moins riches puissent aller faire un séjour dans ces stations spatiales et puis voir depuis l'espace et la Terre ce que tous les astronautes nous racontent comme étant magnifique. Donc Elissa, j'espère avoir répondu à ta question. Tu as bien compris que la Lune, c'était réservé à des gens dont c'est le métier, des astronautes, mais que si tu rêves d'aller sur la Lune, eh bien, il te faut devenir astronaute.
Merci Sébastien Bard, sous-directeur exploration et vol habité au Centre National d'Études Spatiales, le CNES.
C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.
Et c'est ainsi que se termine cette émission À toi les étoiles. Aujourd'hui, nous avons exploré des questions fascinantes grâce au podcast du CNES. Nous avons découvert comment on dort dans une fusée, pourquoi on envoie des satellites dans l'espace ou encore si les fusées polluent l'espace. Des questions pertinentes et des réponses passionnantes. Un grand merci au CNES pour cette série de podcasts Raconte-moi l'espace et plus particulièrement à Nathalie Blin du service presse du CNES pour avoir rendu tout cela possible. Si ces podcasts vous ont intéressé, sachez qu'il y a 42 épisodes disponibles sur le site du CNES. Vous pouvez les retrouver en vous rendant sur le site www.cnes.fr, rubrique Découvrez l'espace. N'hésitez pas à y faire un tour pour découvrir encore plus de questions fascinantes sur l'espace. Mais avant de vous laisser, notez bien la date. Dimanche 15 décembre de 13h à 14h. Je vous donne rendez-vous pour la dernière émission de l'année et pas n'importe quelle émission. À toi les étoiles fêtera en effet son 20e anniversaire. Un bel âge pour une émission dédiée à l'astronomie et à l'exploration spatiale. Pour marquer cet événement, je vous ai préparé une émission spéciale anniversaire avec de nombreuses surprises et des invités. C'est un moment qu'il ne faut surtout pas manquer, alors réservez bien votre dimanche après-midi pour être avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'ici là, continuez à lever les yeux vers le ciel, prenez de la hauteur et regardez les étoiles. À très vite pour une nouvelle aventure spatiale, et merci pour votre fidélité. Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck, le troisième dimanche, de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.